On avait abordé, si je me souviens bien, la dernière fois, l'histoire de l'évolution, plutôt de la dérive, pourrait-on dire, de la théologie à partir du XVIIIe siècle en particulier. Et notamment à partir d'un certain nombre de maîtres à penser qui ont influencé la théologie protestante jusqu'à nos jours, et qui sont Rousseau d'une part, et Darwin. On avait parlé de Darwin, je crois ? Non, on avait juste parlé de Rousseau.
Non, on avait parlé de la théorie
d'évolution. Oui, ben c'est ça, c'est Darwin alors. Bon, bien. Alors, il y a un troisième penseur. Non, ça va ? Tout le monde n'est pas prêt ? Ça va ? On peut y aller ? Non, pas tout à fait. Pardon. Ah bon, d'accord, on n'avait pas fait de
points sur Darwin.
C'est ça, les hérésies majeures. Bon. Alors, on avait donc vu Rousseau, le deuxième philosophe qui va influencer la philosophie en général du XVIIIe siècle et la théologie par conséquent, c'est Darwin, avons-nous dit. Darwin qui a élaboré le premier. La théorie de l'évolution des espèces animales. Il avait remarqué qu'il semblait qu'il y avait toute une filiation entre les différentes espèces animales, comme si les espèces les plus simples étaient apparues les premières et ensuite avaient donné naissance aux espèces les plus complexes pour aboutir finalement à l'homme. Et Darwin a élaboré cette fameuse théorie que l'on résume d'une manière un petit peu lapidaire et que Darwin lui-même aurait récusée par cette formule « l'homme descend du singe ». Alors, en gros, comment on peut la résumer, cette théorie-là ? En fait, il s'agissait, de la part de Darwin, d'une négation de la Bible, une négation d'un Dieu créateur, l'évolution des espèces étant tout simplement le jeu du hasard. C'était une approche, sinon athée, du moins théiste, qui réduisait Dieu à être le Deus ex machina, c'est-à-dire celui qui avait donné la chiquenaude de départ, et puis ensuite, par le simple jeu des lois naturelles, des forces naturelles, les choses avaient ainsi évolué. C'était donc une négation de la Bible, avec négation de la chute. L'homme, par conséquent, était le produit d'une évolution. Par conséquent, il n'était pas par nature pécheur. En tout cas, ce qu'il pouvait y avoir de négatif en lui n'était pas de sa responsabilité. Et par conséquent, si l'homme n'était pas pécheur, le besoin d'une rédemption ne se faisait plus non plus sentir. Darwin a eu l'honnêteté de dire d'une manière très ouverte et très nette que sa théorie avait été construite pour combattre le christianisme. Ce que l'on sait moins, également, de Darwin, c'est que sur son lit de mort, il est revenu sur ses affirmations. Il a reconnu qu'il s'était trompé, mais hélas, le mal était fait. Et bien des gens qui, au XVIIIe siècle, étaient en révolte contre la foi, se sont saisis de la théorie de Darwin comme d'une arme, pour combattre précisément la foi chrétienne. Un troisième penseur, qui apparaît à cette époque-là, c'est Voltaire. Voltaire, qui est peut-être le plus connu de tout un ensemble de philosophes qui ont surgi au XVIIIe siècle, qui sont caractérisés par deux a priori. Premièrement, le rationalisme, et ensuite le théisme. En fait, c'est en Angleterre que cette philosophie a pris naissance, et les philosophes français, dont Voltaire est le principal, le plus connu. Ça va pas, Nicole ? Le théisme. On reviendra sur cette expression, on verra ce que c'est que le théisme. Mais en fait, Voltaire et les philosophes français comme Diderot et Rousseau, en fin de compte, qui étaient aussi dans cette ligne-là, ont hérité, n'est-ce pas, de cette philosophie à partir des philosophes anglais. Le rationalisme d'abord, c'est-à-dire que l'homme était, par sa raison, la mesure de toute chose. Tout ce qui n'était pas possible de réduire à un raisonnement logique devait être rejeté. Et ce faisant, tout ce qui était surnaturel, tout ce qui était miraculeux, était rejeté parce que, précisément, échappant au domaine de la raison, échappant à la possibilité d'une explication rationnelle. C'était également l'époque où les progrès scientifiques commençaient à être sensibles, et c'est précisément ces progrès scientifiques qui ont donné au raisonnement logique, n'est-ce pas, une primauté qu'il n'avait pas jusqu'alors. Sur le plan religieux, le rationalisme aboutissait aussi à une deuxième conséquence, c'était le théisme. Les philosophes du XVIIIe ne rejetaient pas la foi en Dieu, ce n'étaient pas des athées, mais pour eux, Dieu n'était finalement qu'un être que l'on pouvait définir par la raison. Ce n'était finalement qu'une idée philosophique, qu'un concept philosophique. Ce faisant, ce Dieu-là n'était pas le Dieu qui s'était révélé en Jésus-Christ, le Dieu qui était proche, le Dieu qui pouvait intervenir dans les affaires des hommes. Ce n'était pas non plus un Dieu auquel on pouvait s'adresser par la prière. C'était tout simplement une force plus ou moins obscure, difficilement définissable, difficilement cernable, mais en tout cas, que l'on chassait de cet univers-ci, n'avait pas sa place dans ce monde-ci. Il était un dieu extrêmement lointain, qu'il était difficilement possible d'atteindre. Alors, ceci conduisait les philosophes du XVIIIe siècle à l'idée que la Bible n'était pas une révélation de Dieu et devait être soumise aux mêmes critères de critique que les autres livres. Et ceci a mené les philosophes rationalistes à poser la primauté d'une religion naturelle, qui était la seule religion vraie. Il faut dire, à la décharge de ces philosophes, qu'on n'était pas encore très loin des guerres de religion, et que précisément ces guerres de religion avaient quelque peu déconsidéré la foi chrétienne aux yeux de bien des gens. Et les philosophes rationalistes essayaient justement de dépasser ces clivages qui avaient marqué les siècles précédents pour définir une religion qui aurait pu rallier tout le monde, rallier tous les suffrages, et qui était cette religion naturelle. Une religion naturelle basée sur un certain nombre de principes moraux, universels, qui devaient d'ailleurs donner naissance à ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était basée sur, finalement, cette foi en un Dieu que Pascal définira comme le Dieu des philosophes et des savants, et finalement, qui aboutira à une véritable catastrophe sur le plan de la foi chrétienne. En Allemagne, la même évolution se fait sentir. L'Allemagne, le pays de Luther, où l'on peut dire la théologie est une véritable passion nationale. Et la démarche des philosophes français se retrouve au niveau de l'Allemagne, et plus particulièrement au niveau des théologiens. C'est en Allemagne que l'on applique les idées des philosophes rationalistes à la théologie. Et c'est d'Allemagne que vient le mal, peut-on dire. Et en particulier, en Allemagne, on va appliquer à la Bible la philosophie de Descartes. Descartes, qui était le premier, disons, philosophe rationaliste, qui avait introduit dans sa méthode le principe du doute méthodique, du doute systématique, la mise en question. Vous savez que Descartes avait été jusqu'à mettre en question l'existence du monde, sa propre existence à lui, et finalement, la seule certitude à laquelle il était arrivé, c'est celle qui se résume par cette fameuse formule qui a fait fortune, « Je pense, donc je suis ». Et à partir de cela, n'est-ce pas, de cette seule formule, Descartes a essayé de reconstruire tout un système philosophique. Toutefois, Descartes, qui vivait avant ces gens-là, s'était interdit d'appliquer son doute philosophique à la Bible. Pour lui, la Bible restait la révélation de Dieu. Mais les théologiens allemands, au XVIIIe siècle, ont appliqué le doute méthodique de Descartes à la Bible. Ceci les a conduits à mettre en doute l'authenticité de la Bible. Il faut dire que, finalement, la réforme avait un peu préparé la voie à cela, dans ce sens que la réforme avait posé le principe du libre examen de l'Écriture sainte. Et donc, si chacun était libre d'aborder, de lire l'Écriture selon sa propre voie, il n'y avait pas de raison, n'est-ce pas, qu'on n'applique pas non plus à la Bible la question du doute méthodique. Spinoza, juif maran, portugais, qui s'était réfugié dans les provinces unies, c'est-à-dire la Hollande, lui aussi avait repris un petit peu la philosophie de Descartes et avait déjà commencé aussi à l'appliquer à la Bible. Il y a un autre élément aussi qui va provoquer cette dégradation de la théologie qu'on voit au XVIIIe siècle, c'est la Révolution française. La Révolution française qui va consacrer le triomphe des idées des philosophes rationalistes. Vous savez que la Révolution française se posera aussi en adversaire du christianisme. D'abord parce que l'Église catholique en France avait été un des piliers essentiels de l'Ancien Régime. Et dans la mesure où la Révolution française veut faire table rase de l'Ancien Régime, elle veut aussi faire table rase de l'Église. Hélas, il n'y a pas de détail qui est fait. C'est non seulement l'Église qui est en question, mais également le message de l'Église, c'est-à-dire l'Évangile, même si, au niveau de l'Église catholique, bien sûr, c'est un message extrêmement déformé, extrêmement différent du véritable message biblique. Mais il est certain que les révolutionnaires de 89 n'entrent pas dans ce genre de considération. Pour eux, la religion chrétienne est symbole d'obscurantisme et il s'agit d'entrer au contraire dans les Lumières. Et d'ailleurs, le XVIIIe siècle se définit lui-même comme le siècle des Lumières, les Lumières de la raison contre l'obscurantisme religieux qui a marqué les siècles précédents. On va même jusqu'à, vous savez, en 92, au moment des excès les pires de la Convention et de la Révolution, à promouvoir le culte de la déesse raison. Il y avait une espèce de prostituée de bas étage qui se promenait vêtue en espèce de déesse sur un char magnifique, escorté par des sans-culottes, etc. Puis tout le monde était censé la reconnaître en elle l'incarnation de la déesse raison, etc. Bon, le culte à la déesse raison n'a pas eu un gros succès, heureusement, mais c'était un peu grotesque. Mais en tout cas, la révolte contre le christianisme a été. À partir de là, nous avons une déchristianisation importante de la nation française qui va avoir lieu. Le culte de la déesse raison se voulait également le triomphe du théisme de Voltaire et du panthéisme de Rousseau. Ce faisant, c'était aussi une manière de se révolter contre l'alliance entre le sabre et le goupillon, comme on dit, c'est-à-dire entre le trône et l'autel, et la notion de la monarchie de droit divin. Le roi, à partir de Louis XIV en particulier, était considéré comme le lieutenant de Dieu. Il n'avait de compte à rendre qu'à Dieu. L'Église était le support de cette institution qu'était la royauté. Et on rejette tout, on rejette la royauté, on rejette l'Église et on rejette l'Évangile. En fait, ce fut pour l'Église catholique en France une crise extrêmement grave, finalement, à l'image de la crise que l'Église catholique connaît aujourd'hui. Je crois qu'il y a un certain nombre de parallèles à faire très très, très, très importants. L'Église n'était absolument pas prête à faire face à cette crise-là en France. Et sur le plan de la pensée elle-même, la pensée de l'Église a été profondément marquée par les attaques des révolutionnaires de 89. En particulier, la théologie scolastique s'est effondrée comme un véritable château de cartes. Le catholicisme, qui avait déjà été quelque peu miné dans sa pensée par le jansénisme au siècle précédent, s'est trouvé absolument vide et désemparé. Et il y a eu un certain nombre de prêtres qui sont passés avec armes et bagages dans la vision de nouvelle qui était présentée par les révolutionnaires, si bien que finalement on a vu en France se créer ce clivage qui existe un petit peu de nos jours encore, n'est-ce pas, entre la droite catholique et la gauche anticléricale. C'est de là que ça naît. L'Évangile, l'Église, la religion étant considérée comme une force réactionnaire, comme une force conservatrice qui cherchait à s'opposer précisément à l'émancipation des peuples et au progrès, tout simplement, qui était défini alors comme une valeur. Et c'est à la fin du siècle et au début du siècle suivant, au moment des restaurations d'une part monarchique et d'autre part l'époque napoléonienne, que le catholicisme va se ressaisir. Il va y avoir, au siècle suivant en particulier, un certain nombre d'efforts d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, qui vont être faits par des gens, par exemple, comme Chateaubriand. Chateaubriand qui va s'efforcer de montrer la beauté du christianisme, n'est-ce pas ? Ça dans un certain nombre d'ouvrages tels que justement le génie du christianisme. Qui est l'ouvrage majeur, mais on pourrait citer également les martyrs ou d'autres ouvrages du même type. On trouve également un homme comme Lannemenet qui lui restaurera le catholicisme traditionnaliste. Il sera un petit peu Lefèvre de l'époque. Et l'œuvre de Lannemenet en particulier aboutira à Vatican Ier, c'est-à-dire à la doctrine, au dogme de l'infaillibilité pontificale. Dans le même temps, les philosophes et théologiens allemands, eux, ont creusé encore la... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'a pas gêné ? Vas-y. Qu'est-ce qui te...
Lannemenet,
oui.
C'est la même époque que Napoléon ?
C'est le 19e, oui. C'est le 19e. euh, Dans le reste de l'Europe, on a la même évolution. En Allemagne, on a un certain Jacobi qui enseigne que, finalement, la seule révélation juste est une révélation intérieure. C'est une espèce d'intuition que l'homme a, n'est-ce pas, un sentiment religieux. On est en plein subjectivisme. Et c'est le triomphe du subjectivisme en Allemagne. En Angleterre, c'est Schelling qui reprend à peu près la même idée, en ce sens que pour lui, l'histoire représente le processus de la révélation de Dieu dans l'esprit humain. Et là, on voit déjà apparaître une autre idée force qu'on va trouver au siècle suivant en particulier.
Comment s'appelle ce
livre ? Schelling. Par exemple, il réinterprète à partir de cela un certain nombre de doctrines bibliques. Par exemple, l'incarnation, pour lui, c'est la prise de conscience de l'absolu dans la matière. Voyez-vous ? On est vraiment dans des idées extrêmement, extrêmement philosophiques, quoi, et très, très... Et puis alors ensuite, au siècle suivant, en Allemagne, on trouve alors là un homme qui va profondément marquer toute la pensée de notre temps, à la fois philosophique et théologique, c'est Hegel. Hegel, le père de l'idéalisme philosophique, qui alors lui va se saisir de la notion de progrès dans le domaine des sciences et des techniques, qui maintenant fait des bons prodigieux à partir du XIXe siècle, pour l'ériger en valeur philosophique. Reprenons précisément les travaux de Darwin, qui voit dans, n'est-ce pas, l'apparition des espèces sur la Terre, du plus simple, l'évolution du plus simple au plus complexe, un progrès, et faisant un parallèle entre ce progrès supposé dans l'évolution du vivant et le progrès réel que les gens du XIXe siècle constataient dans le domaine des sciences et des techniques. Hegel fait de cette notion de progrès le moteur de l'histoire, le moteur des choses. Il y aurait dans l'esprit, n'est-ce pas ? Parce que pour lui, c'est au niveau de l'esprit que ça se situe, une force qui conduirait les choses vers une organisation de plus en plus complexe, donc vers un progrès. Et comment s'effectue cette évolution-là ? Eh bien, par la dialectique. Qu'est-ce que c'est que la dialectique hegelienne ? C'est le choc de deux contraires. C'est un conflit. La dialectique, c'est un conflit entre deux réalités qui sont antagonistes et qui soudain, n'est-ce pas, par ce jeu même du conflit, vont donner naissance à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, de mieux et de plus complexe. Dans le domaine de la pensée, par exemple, la pensée dialectique, c'est le conflit entre la thèse et l'antithèse qui ensuite se traduit par une synthèse, donc un progrès, n'est-ce pas, de ces deux notions antagonistes qui ont été intégrées. Et puis alors, nouveau, il va y avoir une thèse, une antithèse, et puis il va y avoir un progrès dans la pensée, etc. Et en fait, c'est cette notion qui va être prise par le marxisme. Le marxisme est l'héritier direct de la philosophie d'Hegel. Et pour Hegel, la religion est une étape dans le domaine de la pensée. Pour lui, il estime que la religion est une thèse qui se heurte au XVIIIe siècle à une antithèse, une contestation, l'anticléricalisme, le rationalisme, etc. Et que finalement, de ce conflit dialectique entre religion et philosophie, va naître une synthèse qui va permettre un progrès important dans le domaine de la pensée et de la théologie. Et précisément, cette idée hegelienne va être reprise par les théologiens jusqu'à nos jours. Et finalement, on a au niveau, n'est-ce pas, de la théologie aujourd'hui, une démarche dialectique. mais qui, bien loin, hélas, de conduire au progrès escompté, conduit à la dérive et à la déliquescence, précisément, de la théologie. Alors, ça amène à réduire le christianisme à un ensemble de symboles. On continue à parler de la Bible, on continue à prêcher la Bible dans les églises, mais un message biblique est totalement vidé de sa substance, un message biblique qui n'est réduit finalement qu'à un ensemble de symboles, de réalités fumeuses, philosophico-théologiques, auxquelles le peuple ne comprend rien. On parle évidemment de dialectique, de synthèse, d'antithèse, etc. Vous comprenez bien que le pauvre peuple des églises, qui vient là pour entendre comment le Seigneur peut intervenir dans leurs problèmes quotidiens, bien il décroche vite. Et dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, partout où dans les églises on se met à prêcher ces thèses brillantes, les auditoires fondent comme beurre au soleil. Et ceci contribue à accentuer le processus de déchristianisation qui a commencé avec la Révolution française, et ensuite avec les guerres napoléoniennes qui vont exporter dans l'Europe tout entière les idées de la Révolution française. Alors, ceci va aboutir à une crise de l'exégèse. Une crise de l'exégèse qui, au XIXe siècle, va reprendre l'idée que la Bible est aussi le produit d'une évolution, du plus frustre vers le plus élaboré. Et alors, on n'hésite pas, pour ce faire, à aller à l'encontre de ce que la Bible affirme. Ce qui est premier, ce n'est plus ce que la Bible affirme, mais c'est ce que la philosophie de l'époque affirme. La philosophie de l'époque devient une grille au travers de laquelle on lit la Bible. Et si il y a contradiction entre la Bible et la philosophie de l'époque, alors c'est que c'est la Bible qui a tort. Et c'est ainsi qu'on part de cette idée que le peuple d'Israël, contrairement à ce que nous dit la Bible, l'humanité était au départ polythéiste. Alors que la Bible nous dit qu'au contraire, elle était monothéiste. Et là, il y a de nombreux éléments qui nous montrent qu'il en était bien ainsi. Je vous renvoie tout particulièrement à ce niveau-là, au bouquin de Richardson, n'est-ce pas, L'éternité dans leur cœur. Mais à ce moment-là, n'est-ce pas, on ne cherchait pas aussi loin, n'est-ce pas, puisque le polythéisme était la forme la plus frustre de religion, c'était que l'humanité avait été polythéiste, y compris le peuple d'Israël. Et l'on voyait, par exemple, dans le mot Elohim, qui est un pluriel en hébreu, qui signifie Dieu au pluriel, n'est-ce pas, la trace d'un polythéisme primitif du peuple d'Israël, par exemple. Alors, c'est bien la preuve qu'à l'époque de Moïse, qu'à l'époque des juges, on adorait des dieux et non pas un dieu. Par la suite, disent les théologiens de l'époque, on est passé du polythéisme à l'énothéisme. Alors, H-E-N-O-T-H-E-S-E-I-S-M-E, c'est-à-dire la croyance, oui, c'est des mots un peu barbares, hein. Ça c'est le problème de la théologie, alors là, il y a tout un langage de bois, énothéisme. C'est-à-dire que, au milieu de tous les dieux auxquels on continue à croire, on privilégie un seul dieu, tout en continuant à admettre qu'il y en a d'autres. Par exemple, disent les théologiens de l'époque, le peuple d'Israël continuait à croire qu'il pouvait y avoir, que Baal existait, que Moïse existait, que Inanna existait, etc. Mais ils avaient choisi parmi ces dieux-là le dieu qui serait le dieu du peuple d'Israël, qui était celui que les théologiens de l'époque appelaient Yahvé. Ça va pas, Gilles ? Tu ne sais plus ?
Je n'ai pas trop compris.
L'énothéisme,
oui.
Le problème de l'énothéisme. Bon, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, au départ, d'après ce que disent ces gens-là, est polythéiste. Mm-hmm. Il adore une multitude de dieux comme tous les peuples païens. Puis un beau jour, il décide que parmi ces dieux-là, il y a Baal, etc., puis il y a un dieu quelconque qui s'appelle Yahvé. Puis il décide que ce dieu-là sera leur dieu. pas, que ce Dieu-là va s'intéresser plus particulièrement à Israël. Par exemple, vous avez les païens ont le Dieu de l'eau, ont le Dieu du feu, ont le Dieu de la terre, du ciel, de la mer, de tout ce qu'on voudra. Bon, ben, il y avait parmi tous ces dieux-là et le Dieu d'Israël, le Dieu préposé aux destinées d'Israël. N'est-ce pas ? Mais les autres dieux ne sont pas niés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut passer au monothéisme avec les prophètes. Selon les théologiens de l'époque, n'est-ce pas ? Ce sont les prophètes qui ont créé le monothéisme d'Israël. Mais jusqu'alors, Israël était polythéiste, ou au moins énothéiste. C'est en particulier Jérémie qui a, d'après eux, lancé l'idée qu'il pouvait y avoir un Dieu personnel. Et à partir de là, bien entendu, ça pose comme principe, comme conséquence, que les prophètes, puisque ce sont eux qui ont les premiers parlé d'un Dieu personnel, ont été écrits avant le Pentateuque, avant la Torah, les cinq livres de Moïse, puisque les cinq livres de Moïse font allusion à un Dieu personnel. Mais puisqu'il n'y a pas eu Dieu personnel avant les prophètes, c'est donc que la Torah a été écrite après les prophètes. Vous voyez, on remodèle tout à partir d'une idée fausse, n'est-ce pas ? Alors, à partir de cette idée fausse, on raisonne, ça c'est très allemand comme méthode de raisonnement, on raisonne en vase clos et on construit un système très logique, mais qui repose sur une base tout à fait fausse, colosse au pied d'argile. Et tout est faux, de A jusqu'à Z, même si ça paraît extrêmement logique. Et alors, en face de cette évolution-là, les évangéliques ont été totalement désemparés. Les évangéliques ne s'attendaient pas à ce genre d'évolution, à ce genre d'attaque. Et il y a eu une véritable crise dans les églises à partir de ce moment-là. Et au XIXe siècle, seulement, il va y avoir une réaction. Une réaction parce que les choses continuent à se dégrader. Le XIXe siècle, on peut le qualifier comme l'apogée du libéralisme et du modernisme. Donc de cette évolution-là. Une évolution qui se trouve accentuée aussi par, sur le plan philosophico-littéraire, ce qu'on appelle le romantisme. Parmi les plus connus en France, Victor Hugo, c'est un des plus grands poètes romantiques français. Et puis alors, on trouve un autre philosophe qui intervient à ce moment-là, qui est Kant. Kant, qui lui est un rationaliste, mais un rationaliste critique, et qui va se lancer dans une critique de la raison. Kant affirme qu'il est impossible d'arriver à la connaissance par la raison pure. Et il réhabilite la religion en faisant en sorte que la religion, en disant que la religion est un système qui permet dans la pratique, n'est-ce pas, de vivre cette dimension de la connaissance. Et ceci va permettre une certaine réaction au sein du christianisme, d'abord sur le plan théologique, en Allemagne, avec ce qu'on appelle l'école de Tübingen, et ensuite sur le plan évangélique. Et la réaction évangélique sera tout simplement une réaction de Dieu, sera tout simplement l'apparition de réveils. Les réveils qui vont manifester Dieu à l'œuvre. Et alors là, on ne se situe pas absolument pas sur le plan de la doctrine, sur le plan de la controverse théologique, mais sur le plan de l'expérience et des faits. Dieu agit, Dieu est vivant. Et les réveils du 19e vont ramener à la foi une multitude de gens qui étaient ébranlés par justement l'évolution de la théologie. Mais en même temps, n'est-ce pas, le 19e siècle et L'essor du mouvement évangélique au XIXe siècle, essor qui est extrêmement important, c'est quand même l'époque des réveils méthodistes, c'est quand même l'époque des réveils de Wesley, de Finney, n'est-ce pas ? Et il va y avoir évidemment une œuvre extraordinaire qui va être faite à ce moment-là, endiguant cette vague diabolique qui s'étend alors sur le christianisme, mais en même temps ayant un autre aspect négatif, dans ce sens qu'il crée un fossé entre la foi et la raison. Alors que les modernistes et les libéralistes, et les libéraux plutôt, font toute leur doctrine sur la raison, les évangéliques insistent essentiellement et uniquement sur la foi. Alors, les libéraux leur disent « Mais votre foi est absurde !» Et les évangéliques répondent « Ça fait rien. C'est vrai que c'est absurde. Et je n'ai pas d'argument pour répondre à vos attaques. Mais je crois quand même, parce que j'ai une révélation de Dieu, parce que j'ai une connaissance de Dieu, parce que j'ai une expérience de Dieu. » Alors, il est certain que c'est fondamental comme démarche. Et finalement, c'est toujours sur ce terrain-là que les évangéliques que nous sommes se situent par rapport à cette controverse-là. Mais les évangéliques se sont, à l'époque, enfermés dans un refus d'aborder tout ce qui pouvait être raisonnement logique à partir de cette base-là. Il y avait un sentiment d'infériorité sur le plan théologique, sur le plan de la réflexion, sur le plan du raisonnement, une crainte d'aborder, n'est-ce pas, une réflexion de ce type, de peur d'être débordé. Il y a eu, on pourrait dire, un véritable ghetto évangélique qui s'est créé à cette époque-là et qui existe encore dans certains milieux aujourd'hui, dans certains milieux évangéliques. Les évangéliques ne se sentaient pas en position de force dans ce combat, dans ce débat, n'est-ce pas ? Et il y avait pour eux une défense, c'était légitime, mais en même temps, n'est-ce pas, il y a eu ce point faible qui était là, qui faisait que sur le plan du raisonnement, sur le plan de la théologie, eh bien, les évangéliques n'avaient pas beaucoup d'arguments. Et au niveau des rationalistes, il était facile de les tourner en dérision, de montrer que leur argumentation était extrêmement faible, et ceci faisait que malgré tout, beaucoup de gens continuaient à être troublés. Les évangéliques ont abandonné à cette époque-là tout ce qui était doctrine, tout ce qui était théologie aux libéraux. Par contre, il en a été différemment dans le monde catholique. Le catholicisme a suivi à peu près la même évolution, dans ce sens qu'il a aussi, lui, été amené à être traversé par les courants libéraux. Il y a eu, au milieu catholique, une réaction du même genre que la réaction évangélique, que l'on appelle le piétisme. Il y a eu un piétisme catholique comme il y a eu un piétisme protestant. Bien différent, toutefois, évidemment, quant à ses formes et quant à ses manifestations. Et puis alors, il y avait aussi, bien entendu, dans l'Église catholique, un élément qui manquait en milieu protestant, c'était l'autorité papale, l'autorité de la hiérarchie. Et celle-ci s'est vite rendue compte du danger que représentait pour la foi ce qui, au milieu catholique, on appelait le modernisme, alors que dans les milieux protestants, on appelait ça le libéralisme. Et le pape Pie X en particulier, dont les catholiques ont fait un saint, a publié une encyclique, n'est-ce pas, qui s'appelait le Syllabus, qui était une condamnation sans nuance du modernisme, et par laquelle le pape Pie X sommait un certain nombre de théologiens catholiques qui s'étaient dangereusement avancés dans le domaine du modernisme de s'aligner, un petit peu comme le pape actuel est en train de le faire dans un domaine un peu différent, celui des théologies de la libération, etc. Finalement, c'est le même combat qui continue, avec des formes différentes. Et puis ensuite, il y a eu, à la fin du siècle, Vatican Ier, qui a été l'apogée de la réaction anti-libérale, anti-moderniste, et qui a consacré l'échec de ce dernier. en particulier avec la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale, au terme duquel, lorsque le pape parlait en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, il était assuré d'une assistance du Saint-Esprit qui le préservait de toute erreur. Et il devait donc être, ce qu'il disait dans ces moments-là, devait être reçu comme parole de Dieu par tous les chrétiens. Il n'y a qu'un pays où le catholicisme est resté en retrait à ce niveau-là, c'est les États-Unis. Les États-Unis, qui étaient très très marqués, n'est-ce pas, par les idées libérales et démocratiques, les évêques américains ont beaucoup beaucoup renaclé pour accepter Vatican Ier en particulier. Mais finalement, au bout de quelques dizaines d'années, l'œuvre était faite. Les évêques américains, oui.
Mais aussi la Hollande et l'Allemagne.
Alors, il y a eu effectivement des ruptures au niveau de l'Église catholique. Un certain nombre de gens n'ont pas accepté cela. Et il y a eu des églises catholiques dissidentes qui se sont créées alors, notamment les églises vieilles catholiques, comme on les appelle, en Allemagne et en Hollande, effectivement, qui sont restées séparées de Rome jusqu'à aujourd'hui, à cause de ces raisons-là. En fait, nous avons là, dans ces différents mouvements qui ont marqué ces deux siècles, l'origine de tous les problèmes modernes. Parce que finalement, ces lumières, comme on les appelait à l'époque, allaient semer des germes de désintégration dans la théologie et la foi. Les conséquences pratiques de ces hérésies allaient être finalement incalculables. Elles ont abouti précisément à cette désintégration de la foi à laquelle nous assistons aujourd'hui, et à ce néolibéralisme qui est aujourd'hui prôné par beaucoup des églises et avec lesquelles le catholicisme aujourd'hui est également aux prises, à nouveau, comme il l'était finalement au siècle dernier. Alors, voyons précisément maintenant ce qu'a été cet âge d'or de la critique classique du libéralisme avant de voir à notre siècle le néolibéralisme. Le rationalisme, nous l'avons examiné très rapidement, c'est la négation de toute finalité dans le monde. Le monde est fini, il est clos. Et Dieu ne peut plus intervenir dans le monde. On interdit à Dieu d'intervenir dans le monde. Les phénomènes ne peuvent avoir que des causes naturelles, explicables, qui répondent aux critères scientifiques de la cause et des effets. Tout phénomène a une cause qui doit pouvoir être examinée scientifiquement. Si aujourd'hui on n'est pas capable encore de donner à un phénomène précis une explication rationnelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui, compte tenu des connaissances encore limitées. Mais demain, quand les sciences auront fait des progrès, on pourra donner une explication rationnelle à ce phénomène. C'est exactement la méthode que l'on va appliquer pour la Bible. Lorsque la Bible nous parle d'un miracle, les rationalistes disent « le miracle, ça n'existe pas ». Donc, il y a une raison, une explication naturelle à ce miracle. Que les hommes de l'époque pré-scientifique étaient incapables de discerner, mais qu'aujourd'hui nous pouvons appréhender. Par exemple, Jésus marchant sur les eaux, nous savons très bien qu'un homme, parce que Jésus n'était qu'un homme pour eux, ne peut pas marcher sur les eaux. Que s'est-il donc passé? Pourquoi la Bible nous parle-t-elle de Jésus marchant sur les eaux? Parce que les disciples ont été l'objet d'une illusion à ce niveau-là. Jésus marchait sur la rive du lac, mais comme les disciples étaient sur la mer, dans un bateau, la silhouette de Jésus se détachait sur la mer, leur donnant l'impression qu'il marchait sur la mer. Et comme c'était des hommes pas trop malins, beaucoup moins malins que les gens du XIXe siècle, ils ont cru, n'est-ce pas, qu'ils avaient affaire à un miracle parce qu'ils vivaient dans un monde mythique fait de merveilleux, etc. Le miracle de la multiplication des pains, eh bien, c'est très simple. chacun des personnages qui avaient assisté à ce à la prédication de Jésus, en fait, avait pris un petit peu de provision avec lui. Et puis, finalement, comme personne ne voulait partager avec son voisin, on faisait semblant d'avoir rien. On avait caché son petit sac, là, n'est-ce pas ? Et puis, c'est comme ça qu'on avait l'impression qu'il n'y avait rien à manger. Alors Jésus a invité un jeune garçon qui était un peu plus altruiste que les autres, qui a accepté de partager ses 5 pains et ses 2 poissons. Et alors il a montré un exemple, il dit, vous voyez, ce garçon il accepte de partager ses pains et ses poissons. Alors touché par ce geste magnifique d'altruisme, chacun a sorti les provisions qu'il avait de son sac et a partagé avec les voisins qui n'en aient pas, ce qui a donné l'impression que les pains, les 5 pains et les 2 poissons avaient été multipliés. Alors là, le genre d'élucubration auquel les rationalistes étaient arrivés, n'est-ce pas ? Affaire à des légendes tout à fait babyloniennes qui avaient été élaborées par des peuples qui les avaient précédés et au milieu desquels ils avaient vécu. Et que par conséquent, nous avions là affaire à des légendes tout à fait babyloniennes, alors que, comme l'a prouvé le professeur Cassuto au début de notre siècle, la Bible connaissait de fait ces récits babyloniens, mais justement, alors que ces récits étaient mythiques, la Bible justement est une démythification, une démythologisation de ces légendes-là, justement. Et les prend à plein revers, et bien loin d'entrer dans le schéma de ces gens-là, au contraire, les contredit à fond. Au début du siècle également, nous avons une autre école théologique qui est extrêmement importante, qu'on appelle l'existentialisme. L'existentialisme, c'est d'abord un mouvement philosophique qui va être récupéré par la théologie, comme le sont à peu près finalement toutes les écoles philosophiques. Parmi les théologiens existentialistes, le plus célèbre est Kierkegaard, qui était un Danois qui a vécu 1913 à 1955. Selon lui, l'homme est invité à une existence authentique. Il faut qu'il comprenne le sens de son existence, et c'est l'homme lui-même qui doit donner un sens à sa vie en s'accomplissant. Et l'on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui d'existentialisme dans la manière de vivre de bien des gens qui n'ont jamais étudié ni les philosophes existentialistes, ni encore moins Kierkegaard, mais qui finalement ont respiré, si je puis dire, cette espèce de doctrine satanique qui s'est diffusée un peu partout, dans les écrits, dans les journaux, dans les médias, etc., et qui fait que finalement, il faut s'accomplir, il faut vivre authentiquement, il faut être authentique, etc. Bon, ça, vous trouvez, c'est une idée existentialiste qu'on trouve chez Sartre, par exemple, chez des gens du même genre. Kierkegaard avait repris ça. L'homme doit donner un sens à son existence, et par conséquent, il est entièrement autonome, il est entièrement libre. Dieu ne doit pas le gêner. Alors là, il y a deux possibilités d'envisager la question de Dieu. Dieu comme effectivement un gêneur qui vient empêcher cet accomplissement de l'authenticité de l'homme. Alors c'est l'humanisme athée qui sera celui d'un homme comme Sartre, par exemple. Ou bien au contraire, Dieu et l'autre, et ce sera la position de Kierkegaard, face auquel finalement l'homme est totalement autonome. Dieu qui est vraiment l'étranger, face auquel l'homme n'a aucun compte à rendre en dernier ressort. L'homme doit conquérir son existence, il doit se conquérir lui-même. Alors, il n'y a plus de notion d'au-delà. L'au-delà n'existe pas. Il y a répudiation de toute révélation. Et la théologie ne devient en dernier ressort qu'une servante de la philosophie. Kierkegaard est plus un philosophe qu'un théologien en dernier sens. Alors, avant de conclure, nous pouvons nous poser une dernière question. La théologie libérale est-elle morte ? On le prétend aujourd'hui. En fait, il n'en est rien. Le libéralisme a abouti à l'énoncé, finalement, de quelques vérités d'ordre général qui sont communes à toutes les religions. Et le libéralisme est à ce sujet-là un véritable syncrétisme. On pourrait dire aujourd'hui, en faisant un raccourci un peu caricatural, que dans la religion rationaliste et libérale, la Déclaration universelle des droits de l'homme a remplacé la révélation biblique. N'est-ce pas ? cette déclaration universelle des droits de l'homme tient lieu, en fin de compte, dans la vision libérale de ce que faisait la Bible autrefois. Évidemment, si je disais ça à des libéraux, ils se mettraient à hurler. Mais dans la pratique et dans les faits, c'est comme ça que les choses se passent. Ce qui est proprement biblique, ce qui est l'essence du message chrétien, est laissé de côté. Les grandes vérités de la Bible sont niées. Tout ce qui est miraculeux, nous l'avons vu. Donc, la résurrection de Jésus, et quand nous lisons ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, il nous montre quelles sont les conséquences de la négation de la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas de résurrection de Jésus, votre foi est vaine. Vous êtes dans vos péchés, dit Paul. Il n'y a plus d'expiation, il n'y a plus de pardon. Mais pour les libéraux, il n'y a plus de péché non plus. Il n'y a plus de chute. Alors, qui est Jésus ? Mais Jésus n'est qu'un simple homme. Il est le fils de Joseph. Il n'est pas le fils de Dieu. L'incarnation, la naissance virginale, légende que tout cela, bien sûr, pour les libéraux. Jésus n'est qu'un simple homme qui finalement a prêché une doctrine intéressante. C'est un homme exceptionnel qui s'est fait crucifier parce qu'il a été victime précisément de cette doctrine qu'il a prêchée. Alors c'est un exemple, il faut suivre ce qu'il nous dit, mais il n'est plus sauveur, il n'est plus fils de Dieu. Le salut par la croix, tout cela, c'est complètement absurde pour les libéraux. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de monde démoniaque. Il n'y a pas de monde des esprits, il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas non plus de parousie, il n'y a pas de retour de Jésus. Il y a tout simplement l'espérance d'un monde meilleur qui sera construit par les efforts des hommes unis, chrétiens ou non. Alors le christianisme ne devient à ce moment-là que, comment dirais-je, le fer de lance de ce mouvement humaniste. Et certains libéraux modernes iront jusqu'à dire que le but de l'Église, précisément, c'est de se diluer dans le monde. Pour cela, on peut dire que, question de ça, ça réussit pas mal. Ça se dilue tellement que bientôt il ne restera plus d'Église. Alors, c'est le processus de sécularisation. Et il faut que ce soit sécularisé, c'est-à-dire qu'il faut que les principes de l'Évangile, la morale de l'Évangile, parce que c'est réduit à cela, c'est rien de plus, et encore, une morale sélective. Il n'est pas question de la morale personnelle, mais question du progrès social, etc., du péché collectif, le péché individuel n'a pas d'importance. Il faut que les principes, qui sont finalement quelques grands principes universels, finissent par être partagés par tout le monde. Et quand ça sera, alors l'humanité tout entière unie autour de ces quelques principes, résumés encore une fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que c'est un texte fondamental pour eux, n'est-ce pas ? Eh bien, l'humanité pourra prendre son destin en main et puis créer finalement son propre paradis ici-bas, c'est-à-dire construire Babel, finalement. C'est un retour à Babel. Construire une civilisation qui sera une, qui s'élèvera jusqu'à Dieu, mais qui aura exclu Dieu, en fin de compte. Alors, peu importe à ce moment-là que l'on soit croyant ou non, et il y a même des gens qui se disent des chrétiens athées, il y a une association des chrétiens athées en France, oui. Peu importe qu'on croit en Dieu ou pas, l'essentiel c'est ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres, etc. Quelques bons principes. Bon, c'est vrai, Jésus a dit cela. Mais finalement, on réduit cela à quelques bons principes lénifiants, à partir desquels tout le monde peut être d'accord. Bouddhistes, musulmans, tout ce qu'on voudra. Athées, chrétiens et tout, n'est-ce pas ? Et c'est ça la sécularisation. Il faut que ces principes-là pénètrent dans le monde entier. Et c'est pourquoi ces gens-là, finalement, sont plus occupés à faire du social, du social, non pas tellement d'ailleurs, toujours, enfin, c'est, ils font aussi, il faut leur rendre cette justice, d'aider leurs prochains en difficulté, mais de changer les structures oppressives du monde, donc ça se traduit parfois, dans certains cas d'ailleurs, à carrément prendre les armes d'une manière directe, hein, avoir des réactions violentes pour changer les structures oppressives du monde. Alors, ça se traduit aussi par une autre conséquence, c'est l'universalisme. C'est-à-dire, on en a parlé, je crois, la dernière fois, tout le monde est sauvé après la mort, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de repentance nécessaire, il n'y a pas de pardon à demander à Dieu. Mais par le simple fait que Jésus-Christ est mort, pour manifester un certain nombre de principes et d'idées, eh bien, tout le monde peut ainsi obtenir le salut. Alors, qu'est-ce que la Bible dans ce cas-là ? Eh bien, la Bible n'est pas la parole de Dieu, bien sûr, contrairement à ce que Paul nous dit. Mais elle contient la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont parole de Dieu, puis il y a des choses qui ne le sont pas. Alors, il faut savoir choisir ce qui est parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et c'est là que la sagacité des exégètes libéraux s'est exercée, justement, pour trier le bon grain et livrer dans la Bible. Et le gros problème, justement, c'est que tous ces messieurs n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour savoir ce qui était parole de Dieu et ce qui ne l'était pas. Et c'est finalement, grâce à cette espèce de confusion à laquelle sont arrivés les libéraux à la fin du siècle dernier, que le libéralisme, l'étoile du libéralisme a quelque peu pâli. En particulier à notre époque. Alors, il y a eu un certain nombre de réactions, que nous verrons ensemble la dernière fois, notamment la réaction barthienne, devant cette espèce de confusion à laquelle était arrivée la théologie au début du siècle. On n'arrivait plus à définir ce qui était parole de Dieu et ce qui ne l'était pas. En tout cas, Barthes n'est pas revenu à une vision saine de la parole de Dieu, mais il est parti des acquis du libéralisme pour essayer de sauver les meubles, si j'ose dire. Alors, comme nous allons voir la prochaine fois, la réaction barthienne a permis à pas mal de gens, notamment de pasteurs, de se récupérer sur le plan de la foi. Parce que beaucoup avaient perdu la foi, ils n'avaient plus aucune expérience, et Barthes a permis de leur rendre une certaine foi. Mais néanmoins, les poisons du libéralisme n'ont pas cessé de faire leur ravage. Et aujourd'hui, des générations entières de gens ont perdu la foi, justement, dans les églises protestantes comme dans les églises catholiques, à cause du libéralisme. Soit parce qu'ils sont entrés directement en contact avec ce poison-là, qui est d'origine diabolique. Soit tout simplement parce que, par un certain nombre d'intermédiaires, c'est quelque chose qui se répand, qui se distille. Par exemple, dans les catéchismes catholiques, c'est tout à fait net que le poison libéral est tout à fait là, hein, ça c'est sûr. Alors, beaucoup de gens qui tout simplement, au catéchisme, perdent la foi à ce niveau-là. J'ai fait, en étant plus jeune, une expérience qui est tout à fait typique à ce niveau-là. J'étais dans une église réformée, et par conséquent, j'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec un certain nombre de théories de type moderniste et libéral. Et j'ai connu, étant plus jeune, avant de faire une rencontre avec Dieu dans le domaine de la conversion, j'ai connu des crises au niveau de la foi à cause de cela. Et plus tard, ayant fait des rencontres avec Dieu décisives, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait là une séduction diabolique. Une séduction diabolique qui, précisément, n'est plus rationnelle. Sous une forme rationnelle, il y a un certain nombre de problèmes, mais de problèmes stupides, parfois, qui sont suggérés à ce niveau-là, et qui deviennent des véritables montagnes, jusqu'à ce que, dans la présence de Dieu, soudain la réponse soit donnée d'une manière tellement claire, tellement nette, que finalement on en rit, je dis, mais comment c'est possible de mettre à choper sur quelque chose comme ça? Et c'est bien le signe qu'il y a là quelque chose de véritablement démoniaque et diabolique dans cette doctrine du libéralisme, dans ces doctrines du libéralisme qui continuent aujourd'hui à empoisonner l'Église de Jésus-Christ, tant catholique que protestante. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire comme introduction au sujet de la théologie libérale protestante. La prochaine fois, nous verrons alors les deux réactions, la réaction barthienne, la réaction de Kuhlmann, et puis ensuite nous verrons le néolibéralisme, avec Bultmann en particulier, finalement, qui est aujourd'hui le point de départ de toutes sortes de divagations et de problèmes aujourd'hui dans les églises. Bien, est-ce que vous avez une ou deux questions à poser ? C'est de faire une synthèse entre les deux choses. Et c'était le but de Vatican II, en fait. Et ça a été l'échec de Vatican II, justement. Essayer de faire une synthèse entre... C'est Pie XII qui a réouvert la porte. Pie XII a autorisé les théologiens à employer les instruments de l'exégèse historico-critique pour leurs travaux. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il introduisait le poison à nouveau dans l'Église catholique. Alors Jean 23, lui, a poussé à la roue encore, en disant qu'il fallait ouvrir les fenêtres de l'Église. Ils ont tellement ouvert que ça a été ouvert à tous les courants d'air possibles et imaginables. Et la tempête s'est installée dans l'Église. Et le pape actuel essaie de freiner des cas de fer, tout en gardant quand même une certaine ouverture, etc., que lui reproche fort l'abbé de Nantes en particulier. Intéressant de voir comment ça va évoluer justement à ce niveau-là. Et le synode de novembre, là, va être tout à fait intéressant à suivre.
Et l'amener, il n'y a pas une histoire à un frère qui était...
Ah, le frère, c'est l'inverse.
Qu'est-ce qu'il y racontait
l'autre, c'était le... L'autre frère, c'était plutôt la tendance libérale, justement.
Oui, c'est libérale, oui.
Ah, donc il y en avait un qui revenait à un catholicisme assez...
traditionnaliste.
Que son frère, au contraire.
Oui.
La
neige,
c'est
à Plermont,
quelque chose qui...
Ah bon,
il a avant. Il y a un qui a créé l'école d'agriculture de Plermont.
Ah bon, ah bon.
C'est pour ça que je connais.
Je ne sais pas c'est lequel des deux.
Non, je pense qu'il
va être
bien, sans doute.
Je pense,
c'est...
oui.
Je pense,
oui. Sûrement.
Je pense, ça. Il y a celui-là qui... Ou à Saint-Guen, il y a une rue qui porte son nom aussi.
Bien. Tu as encore autre chose?
L'Église des derniers temps, c'est l'Église de sécularisation.
Ah oui. Agité par tous ces trucs-là. Là, vraiment, on a... Qui est l'Antichrist, dit Jean, celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est exactement ce que fait le libéralisme. Là, nous avons vraiment quelque chose qui est animé par l'esprit de l'Antichrist. Quoi. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce que nous dit Jean à ce sujet-là est tout à fait intéressant. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc c'est un phénomène qui, d'abord, a son origine dans l'Église chrétienne, nous dit Jean. En même temps, c'est lié, ça, ce que je voulais essayer de faire comprendre ce soir, c'est que c'est lié vraiment à toute l'évolution de la pensée occidentale, à partir du 18e, qui a été vraiment le grand tournant. Et en même temps que c'est extrêmement difficile parce que le monde actuellement ne fait pas la différence entre ce qui est l'évangile véritable et puis finalement un évangile perverti et prostitué avec un système conservateur, etc. Vous voyez ? Et qui est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens... C'est synonyme d'obscurantisme. La foi chrétienne, c'est synonyme d'obscurantisme à cause de ça. Pour ça, le combat est extrêmement difficile, il y a une grande confusion. Et là aussi, on voit la marque de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui sème la confusion, toujours. Bien, on va rester là pour ce soir.